Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. 9 essais, un record de points et Toulouse se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. Encore, puisque les Toulousains sont dans le dernier carré européen pour la 6e fois de suite. Mais Toulouse sera le seul club français représenté, ce n'était plus arrivé depuis 2019. On va donc revenir sur ce match de folie, sur ce week-end très prolifique en termes de score. Comment les Toulousains ont construit leur succès contre Exeter, à quoi faut-il s'attendre face aux Harlequins et pourquoi les tableaux d'affichage se sont envolés ce week-end. On va parler de tout ça avec les journalistes rugby de l'équipe Renaud Bourrel et Adrien Corré. Bonjour messieurs.
Salut Léa.
Bonjour Léa.
Crunch, c'est parti. Flexion, lié, jeu. ...17-16 à la pause, une pointe d'inquiétude dans les rangs toulousains. Et puis les champions de France ont inscrit 4 essais en 11 minutes. Une seconde période impressionnante, score final 64-26. Jamais autant de points n'avaient été inscrits en quart de finale de Coupe des Champions. Est-ce que vous avez le souvenir d'une telle démonstration toulousaine récemment ?
Récemment, je ne suis pas persuadé. En tout cas, cette saison, ça me semble être leur meilleur match d'un point de vue offensif. Surtout en deuxième période. Après, c'est quand même une équipe qu'on connaît un peu par cœur maintenant. Ils n'ont pas révolutionné leur jeu, c'est toujours celui qui marche. Mais s'il faut parler d'un dernier souvenir, il y a peut-être l'année dernière sur cette demi-finale contre le Racing en top 14, où j'avais aussi eu ce sentiment de toute puissance offensive. Après, depuis, je n'avais pas trop le sentiment, mais j'oublie peut-être un match en route.
Non, ce sentiment de où ils sont aussi forts, peut-être le match contre les Harlequins là-bas en poule, où ils leur ont passé 40 points. Il y avait peut-être un peu plus d'accidents en cours de match, de sautes de concentration, de temps faible, alors que là, la seconde période a été à sens unique. C'est toujours dur quand il y a un score fleuve comme ça, de se demander si c'est le meilleur match, si c'est un match référence. Ça me fait penser au match contre l'Italie en Coupe du Monde de l'équipe de France, quand ils ont roulé sur les Italiens, et puis on connaît la suite malheureuse de la Coupe du Monde. Donc c'est un énorme match des Toulousains, c'était extrêmement spectaculaire, surtout pour le grand public, quand la Coupe, je crois que c'était diffusé sur France Télévisions, donc c'est génial, parce qu'il y a des essais, il y a des passes. Après, quand on arrive à ce niveau-là de la Coupe d'Europe, on a envie de matchs un peu plus à suspense, un peu plus engagés. La première mi-temps était très intéressante, mais on se rendait compte quand même que Exeter était en train de donner tout ce qu'ils avaient face à la machine toulousaine. Dans votre lancement, Léla, vous parliez d'inquiétude. Nous, on en parlait tout à l'heure avec Adrien. C'est marrant, mais à la mi-temps, j'étais pas du tout inquiet. Je m'attendais pas à 60 points, mais j'étais pas inquiet du tout pour les Toulousains. Je trouvais qu'ils avaient un peu d'indiscipline, qu'ils faisaient des fautes, qu'ils n'arrivaient pas à tout à mettre en place, mais que sincèrement, ça allait venir, quoi.
Je pense qu'on va en parler, hein, mais je pense qu'on peut quand même évoquer...
Non, vous ne pensez pas, vous le savez, parce que vous avez lu le conducteur.
Non, il n'y a pas de conducteur.
Je vous ai vu préparer vos fiches.
Tout est improvisé.
Vous avez un cahier de faillot à côté
c'est
de vous.
C'est pas vrai, vous n'avez rien pour le prouver.
Il est temps qu'on filme ces podcasts.
Je pense
il est temps qu'on arrête de se vouvoyer, surtout. Mais bon,
je pense qu'on peut quand même parler de match référence sur cette partie, parce que tu as parlé des 60 points, c'est vrai.
Moi, je vais continuer de vous vouvoyer, Adrien, par contre.
Moi, je peux vous vouvoyer ou vous tutoyer, le chef. Mais quoi qu'il en soit, Exeter a fait un match très consistant. On ne peut pas vraiment dire qu'ils sont passés à côté de leur match et que Toulouse a déroulé face à une équipe qui était absente. C'est pour ça que je pense que le terme de match référence n'est pas forcément usurpé sur une rencontre comme ça.
Moi, je suis d'accord sur le fait que Exeter avait très bien préparé son match, qu'il savait exactement comment jouer le Stade toulousain. Leur force en présence, mais que pour résister à ce Stade toulousain-là, à cet Armada-là, bah, il faut être mieux équipé qu'Exeter et il faut avoir plus de 30 minutes dans les jambes.
Mais c'est pas une petite équipe non plus, Exeter. Donc champion d'Europe 2020, demi-finaliste l'an dernier, actuellement 6e du championnat anglais. Du coup, votre explication, c'est qu'ils n'ont pas tenu le choc pendant. Ils n'avaient pas les armes pour tenir pendant 80 minutes.
Bah, Exeter, c'est une équipe déjà qui s'est affaiblie depuis ses titres de champion d'Europe. C'était quelque chose de beaucoup plus. Ils ont eu d'énormes joueurs qui sont partis. Hogg, voilà, l'arrière écossais qui était un des meilleurs arrières au monde, leur troisième ligne qui aujourd'hui est à Montpellier, Simons, effectivement, plus quelques autres. Donc c'est une équipe qui a souffert depuis ses derniers titres. Et puis le rugby anglais ne va pas très très bien depuis quelques saisons, entre ses problèmes économiques et sportif aussi, son renouvellement de génération, le fait que le top 14 lui est monté en puissance. Donc le sixième du championnat anglais, aujourd'hui, si on raisonne un peu basiquement, il n'est pas invité face à ce stade toulousain-là, même un stade toulousain qui souffre de l'épuisement de ses internationaux post-Coupe du Monde ou tournoi destination. Aujourd'hui, cette machine-là, elle est trop forte pour un sixième du championnat anglais, je pense.
Et pourquoi Toulouse a quand même un peu coincé en première période ?
Si on se fie juste à ce match, je pense quand même que les Chiefs avaient un plan de bataille assez intéressant. Ils ont mis beaucoup de rythme au début, ce qui paraît un peu audacieux face à Toulouse, qui est une équipe qui se régale aussi justement quand le temps de jeu effectif est élevé. Ils les ont quand même surpris avec ces passes-là. On a vu pas mal de combinaisons en petit train avec les joueurs alignés les uns derrière les autres, ce qui rend pour la défense la tâche très difficile, parce que c'est difficile de savoir sur quel joueur défendre précisément. Mais bon, en fait, ils se sont, je pense aussi, fait avoir par le jeu dans l'axe de Toulouse. On connaît leur porteur très puissant. Aimé Afou est le meilleur exemple de ça. Il a beaucoup avancé, il a beaucoup fait de mal aux Chiefs. Et en fait, il a concentré la défense à lui. Enfin, je dis lui, mais ils étaient plusieurs, hein, évidemment, comme Jack Willis. Enfin, je ne vais pas tous les citer. Et il y a eu des espaces qui se sont ouverts sur les extérieurs. Le très bon exemple de ça, c'est justement le premier essai inscrit par Romain Ntamack. Après un ballon écarté, justement, après un gros travail dans l'axe. Mais je pense que ouais, c'est sur le rythme qu'ils n'ont pas tenu la distance. Ils ont fait un pari et ils l'ont perdu, mais au moins, ils ont eu l'audace de le tenter.
Il y avait effectivement ce pari, en plus, sur un des premiers matchs sous forte chaleur, de se dire on va les surprendre, on va les prendre à la gorge, on va essayer de créer un break dès le départ, et puis ensuite peut-être de le tenir, même si c'est des prédispositions de départ qui sont après compliquées à tenir toute la partie. Mais c'était aussi l'idée, je pense, de faire douter le stade toulousain chez lui. Et sincèrement, honnêtement, la première mi-temps, c'était intéressant, quoi. Mm-hmm. C'était bien joué. Mais encore une fois, moi, j'y ai jamais cru, en fait. Enfin, je veux pas avoir l'air d'avoir une boule de cristal et tout, mais j'ai pas cru. Ça aurait été le Leinster, c'était autre chose. Le Leinster ou peut-être d'autres équipes, mais là, je n'arrivais pas à y croire, en fait.
Et est-ce que Toulouse a changé dans son jeu entre la première et la deuxième période, où ils ont tout simplement accéléré ou attendu que les autres s'épuisent ?
Moi, je pense qu'ils ont un peu fait des deux. En fait, ils ont, grâce à leur vitesse de jeu, ils ont réussi à épuiser les Anglais. Après, les Anglais, je répète encore, mais ils n'ont pas fait un mauvais match, et même en défense. Ils ont beau en prendre 9, ils font pas un match si ridicule que ça en défense. Ils ont une défense hyper agressive avec la rush défense qu'on commence à bien connaître. Et là où Toulouse est vraiment impressionnante, c'est qu'ils ont réussi, les Toulousains, à écarter ces ballons-là malgré la forte pression. Et il n'y avait pas un ballon qui tombait, il n'y avait pas une passe mal ajustée. Donc c'est là où ils sont impressionnants, parce que Exeter est loin d'être ridicule sur la partie.
Le premier essai de la rencontre a été inscrit par Romain Ntamack à la 8e minute. A commencé à en parler Adrien, donc il est à la conclusion d'une action collective, mais quand même il disputait là que son 3e match de la saison, le 2e en tant que titulaire depuis sa blessure au genou en août. Est-ce que vous êtes impressionné par son retour à la compétition ?
Impressionné, oui, mais pas surpris, en fait, parce que c'est une personnalité qui laisse tellement rien au hasard, qui est d'un professionnalisme assez confondant, le fait que sur un troisième match comme ça, il soit déjà à ce niveau-là. Il y a son essai, il y a l'accélération aussi là, qui Dupont là, où il va à une vitesse pour quelqu'un qui revient d'un genou sur un troisième match, qui est assez impressionnante aussi.
Il a pas perdu non plus son adresse technique avec sa longue passe.
Bon, après ça, je pense qu'il est né avec un ballon dans les mains, donc mais donc impressionné, oui, mais surpris non, parce que dès lors qu'il a été blessé, c'est pas un joueur dont on doute de l'investissement dans sa convalescence et dans la qualité dans laquelle il va se reconstruire sur tous les paramètres, d'abord physique, psychique. Aujourd'hui, les joueurs, on les suit sur les réseaux sociaux, on a très bien vu qu'ils savaient très bien alterner les phases de décompression et les phases de travail. C'est presque la Formule 1 Red Bull, quoi. Romain Tamac, quoi. Il y a les ingénieurs qui s'occupent de lui, et puis voilà, qui le laissent reposer. Ils réfléchissent à comment on fait un peu mieux ça, si ça. Tous les aspects de sa carrière sont gérés comme ça. Donc, il n'y a pas de surprise. Sans doute que quand on revient d'une blessure longue comme ça, il va y avoir peut-être une ou deux semaines où il sera un petit peu moins bien. Et puis, il va se refaire. Et je touche du bois pour lui, mais en phase finale, il va inquieter ses adversaires, c'est sûr.
Évidemment, il y a beaucoup de joueurs à ressortir puisqu'il y a eu 9 essais et que le match a tourné à la démonstration. C'est Paul Coste qui a été élu homme du match, alors qu'il n'a pas inscrit d'essai d'ailleurs. Centre de 21 ans, champion du monde U20 l'été dernier. Il vit sa deuxième saison pro avec Toulouse. Comment vous jugez sa progression? Comment il a pris sa place dans l'effectif toulousain?
Oui, il l'a prise petit à petit. Là, il profite un petit peu de la blessure de Barassi. Mais on le voit énormément rayonner depuis le début de la saison. Déjà, la saison passée, quand on avait pu un peu l'apercevoir à Toulouse, mais surtout avec l'équipe de France des moins de 20 ans, on voyait déjà un peu cette prédisposition, c'est difficile à dire, qu'il a, notamment dans le secteur défensif. On le voit très très agressif monter sur l'homme, il rate très très peu de plaquage. On dirait qu'il est tout en air en fait, il est quasiment toujours à s'accrocher à son adversaire. Là je crois que c'est le troisième ligne d'Exeter, Vincent, qui en prend une bonne. Et puis on le voit, il a un petit surplus d'agressivité en plus pour montrer qu'il est là et qu'il ne faut pas y revenir. C'est vraiment un joueur très intéressant de ce côté-là et ça montre surtout la très bonne santé en France du poste de trois quarts centre. Parce que chez cette génération-là, c'est peut-être celui qu'on connaît le moins, mais il y a déjà Nicolas Deporter, Emilien Gailleton évidemment. D'ailleurs, c'est parce qu'Emilien Gailleton était retenu par Fabien Galthié pour la préparation de la Coupe du Monde 2023 que Paul Coste avait été titularisé sur toute la Coupe du Monde des moins de 20 ans et qu'il avait autant rayonné. C'est quand même une bonne nouvelle pour le rugby français que des joueurs comme ça émergent avec des styles tous plus ou moins différents en plus.
Est-ce qu'il y a d'autres joueurs dont vous voulez saluer la performance sur ce match?
Oh bah lui, il est quand même... son offload là, sur l'essai, ouais. C'est, les commentateurs, ils le comparaient, je ne sais plus qui, à Cella et je ne sais plus qui.
Yannick Josion
peut-être. Enfin là, ça passe, c'est Sonny Bill Williams. Quoi. Ouais. C'est un truc de dingue. Quoi. Il est pris dans le plaquage, il bascule et il sort une chistera de l'espace. C'est assez impressionnant. Moi, j'ai vu un peu râler auprès de l'arbitre et je trouve qu'il est un peu jeune pour râler auprès de l'arbitre. mais ça, c'est un peu exaspérant, il faut être honnête. À 21 ans, t'es titulaire au Stade Toulousain, tu fais un super match, mais l'arbitre, tu le laisses tranquille parce que ça prend une pente. Bon, bref, ça, c'est pour le petit point noir. J'ai bien aimé aussi ce que disait Hugo Mola après le match en disant que des bons jeunes, il y en a eu plein qui sont passés au Stade Toulousain. Et comme le souligne Adrien, des bons jeunes centres, il y en a plein en ce moment. Lui, il est un peu en feu là, et il est vraiment très très fort. Mais je pense à un joueur qui, moi, m'avait bluffé quand il arrive au Stade Toulousain, c'est Lucas Tauzin, et qui avait fait des matchs extraordinaires. Je me souviens notamment d'un geste à l'Arena, une espèce de chistera incroyable derrière la tête. Enfin, bon, et puis le pauvre, il a pas confirmé. Donc, qui profite, qui continue de progresser, puis on verra si ça devient Yannick Josion. C'est un peu tôt, c'est un peu tôt pour le dire. Voilà. Après, pour revenir à ta question, Léa, parce qu'il faut te tutoyer,
merci.
Sinon tu as l'impression de prendre 20 ans, mais s'il y a un autre joueur qui a marqué, moi je le répète tout le temps, mais mon joueur préféré c'est François Cross. Quoi.
On fera un épisode spécial pour lui, d'accord.
S'il te plaît, voilà, promis, je te tutoierai tout l'épisode si on fait un spécial François Cross. Non mais c'est un joueur fantastique parce qu'il il est capable de tout faire à son poste de troisième ligne, c'est un état d'esprit absolument incroyable. C'est un vrai leader, meneur. Parfois, il a le brassard de capitaine. Il y a une raison. Et il a réussi 2-3 gestes défensifs sur ce match à des moments où c'était encore serré, qui sont exceptionnels. À l'heure actuelle, si j'avais le talent pour être sélectionneur de l'équipe de France ou manager du Stade Toulousain, je pense que ce serait le premier nom que je mettrais sur la feuille. Et puis, avec Antoine Dupont, évidemment, je pense à nos auditeurs. Hein, j'oublierai pas Antoine Dupont, promis.
Moi, je pense que... Enfin, tu as cité François Cross. On peut aussi un peu parler de son compère en troisième ligne, Jacques Willis, qui a fait un match aussi assez monumental. Il y a quelques données qui montrent qu'à Toulouse, en fait, les postes importent peu. Le joueur qui a parcouru le plus de mètres hier, c'était Jacques Willis, 98. C'est aussi celui qui a battu le plus des défenseurs. Il en a battu 10. Et le meilleur défenseur, c'est pas un avant, c'est pas François Cross, c'est Pita Aki, qui en a fait 14. Voilà, ces données-là, elles sont un peu toutes bêtes, mais surtout, elles montrent en fait qu'à Toulouse, il n'y a pas vraiment Il n'y a pas vraiment de secteur destiné à un seul poste. C'est vraiment tout le monde qui se mélange. Ça se voit beaucoup en attaque, mais c'est aussi valable en défense.
Puis t'as Laki qui a presque un niveau de notoriété
inverse
proportionnel à ce qu'il est important dans la régulation de la ligne toulousaine en attaque ou en défense et ce qu'il est capable de faire. C'est étonnant, c'est un joueur qui était arrivé, il y avait des gros doutes sur l'état d'un de ses genoux, si je me souviens bien, et qui a des semaines adaptées de temps en temps parce que voilà, et qui est fabuleux quoi.
Les Toulousains sont donc en demi-finale de Coupe d'Europe pour la 6e fois de suite, compétition qu'ils ont gagnée 5 fois, c'est le club le plus titré. Leur dernière victoire c'était en 2021. On a parlé la semaine dernière de l'attachement des Rochelais à la Coupe d'Europe, même si c'est récent. À Toulouse, comment on parle de cette Coupe d'Europe et quelle importance cette compétition a pour le club?
C'est pas un vain mot de dire que ils ont toujours revendiqué de la jouer pour la gagner. Ils ont gagné la première édition en 96. C'était contre les Gallois de Cardiff. Je crois que c'était Emile Ntamack, le capitaine.
C'est lui qui soulève la coupe sur la photo. Ouais.
Exactement. Les Anglais l'avaient pas joué cette première édition. Mais les Anglais, pour le coup, les Toulousains, jamais les premiers. Là. Ils peuvent le dire, et puis jamais les premiers à avoir gagné la première. Quoi. Donc, bon. Mais ça a toujours été un objectif. Pour plusieurs raisons, parce qu'ils ont toujours eu l'effectif pour la disputer. Alors, je crois qu'ils ont dû en louper une ou deux éditions.
Récemment, ouais.
Récemment.
2015, je crois.
Ouais, c'est ça. Je crois la deuxième année du Gomola ou quelque chose comme ça. Mais parce qu'ils ont l'effectif, ils ont l'effectif pour la jouer, et puis ils ont un vrai goût, quoi. Donc, oui, c'est une compétition qui compte pour eux.
Enfin, le stade toulousain est assez indissociable en même temps de cette Coupe d'Europe en rugby. C'est un peu comme le Real Madrid et avec des champions en foot. On ne peut pas trop penser cette compétition sans Toulouse. Il n'y a pas que, hein, évidemment, mais il y a le Leinster aussi qu'on peut citer. Peut-être Leicester, c'est des équipes où, quand on voit leur maillot, on pense immédiatement à la compétition. Voilà, bah, Toulouse fait partie de ces équipes-là. Et comme tu l'as rappelé aussi, c'est celle qui a le plus remporté ce trophée, donc évidemment, ils ne peuvent jamais la galvauder, ils sont obligés de la jouer.
Mais c'est immense comme longévité, et ça plante quand même ce club, qu'on soit supporter ou quoi. Les Wasps ont été champions d'Europe, ils ont disparu. On parlait d'Exeter tout à l'heure, ils sont 6e du championnat anglais, ils viennent de prendre 64 points, ils étaient champions en 2020 et finalistes encore juste après, si je me souviens bien, enfin bref. Donc ça prouve l'immensité des fondations de ce club et ce qu'il est capable de faire quasiment chaque saison, quoi.
En demi-finale, les Toulousains affronteront donc les Harlequins. Ce sera le dimanche 5 mai, les Harlequins qui ont battu Bordeaux-Bègles en quart 42-41. Adrien, tu y étais. Quelle impression t'a fait cette équipe?
C'était assez décoiffant, on s'y attendait. On sait que les Harlequins, c'est un peu l'équipe en Angleterre qui relance de son embut.
Le bébé l'a bien vu d'ailleurs.
Ouais, elle l'a bien vu effectivement. C'est une équipe qui est impressionnante offensivement, mais en fait, il y a quand même un piège, c'est de se les imaginer un peu comme des Harlem Globetrotters à se balancer le ballon, parce qu'en fait, ils sont quand même réfléchis contre Bordeaux. Certes, ils relançaient leur 22, mais dès qu'ils voyaient qu'au bout de deux temps de jeu, ça n'allait pas, ils balançaient au pied, et avec un jeu au pied très efficace, notamment de Marcus Smith, qui a été excellent ce week-end. Ils ont des avants très costauds. Yann Impo l'a encore rappelé après le match, parce qu'on avait tous tendance, évidemment, à regarder leurs trois quarts. Mais c'est devant, en fait, qu'ils le gagnent, ce match face à Bordeaux. C'est en étant très fort sur les secteurs de base, comme la mêlée, les groupés pénétrants. Ils ont des joueurs très, très durs à l'impact, très efficace dans les rucks, notamment leur troisième ligne qui s'appelle Will Evans, qui est le meilleur gratteur de la compétition cette saison, également le meilleur plaqueur. Donc ça peut être un défi rigolo de les voir contre Toulouse. Ça sera, je pense, un match assez semblable à celui qu'on a vu ce dimanche, avec Exeter qui a un peu joué en mode...
Faudra rembourser les billets, hein, si c'est pas le cas.
C'est vrai, mais je m'en occuperai pas, je te laisse le faire. Mais donc ouais, les Harlequins, c'est une équipe très impressionnante et très agréable à voir jouer.
On aura l'occasion d'en reparler, mais est-ce qu'entre Toulouse et les Harlequins, il y a un favori?
Ouais, j'ai tendance à penser que Toulouse a quand même un petit avantage pour leur histoire dans la compétition, pour leur confiance actuelle, également pour tout simplement l'avantage du terrain aussi, qui compte quand même mine de rien. Je les mettrais peut-être un peu devant. Après, c'est toujours un peu difficile de faire ce genre de pronostics. Puis les Harlequins, on les attendait pas non plus forcément aussi dominants ce week-end contre Bordeaux. Donc, on ne sait pas si cette compétition peut les porter, s'ils peuvent être lancés dans une aventure qui peut les souder pour faire... Mais ça sera un exploit monumental d'aller gagner à Toulouse.
Dans l'autre demi-finale, ce sera Leinster-Northampton. Est-ce que dans ces quatre équipes, il y a eu une équipe en particulier qui vous impressionne le plus ?
Je vais pas faire que des amis, mais moi j'aime beaucoup le rugby irlandais, le rugby du Leinster, quoi. C'est, alors bon, c'est très redondant, c'est clinique parfois, mais on se rend compte en fait en le regardant de tout le travail en fait que ça demande. C'est une forme d'art, quoi, et c'est une autre forme d'esthétisme. Du coup, moi, le Leinster m'impressionne depuis, même s'il s'était fait piéger par La Rochelle. C'est une autre forme de rugby inexorable, quoi, hein, La Rochelle, quand même. Hein, si le Leinster m'impressionne. Et puis c'est pareil, en termes de régularité, là, il y a quelque chose. Si la finale doit être celle à laquelle on s'attend tous, ça va être sacrément impressionnant.
Ce qui est vachement bien avec ces demi-finales, c'est qu'on a quatre équipes qui jouent beaucoup, qui sont des équipes joueuses. Alors évidemment, le Leinster, ce n'est pas des relances du fin fond du terrain, mais ça reste un rugby offensif très réfléchi et très agréable à suivre parce que c'est un rugby avec beaucoup de mouvements aussi. Donc là, les quatre équipes qui vont s'affronter, on a de la chance d'avoir des qualités offensives dans tous les sens.
La Coupe d'Europe, chaque année, quand elle démarre, elle n'a pas une cote de dingue, mais on se rend compte qu'on voit des matchs tous les ans... extraordinaire. Les Sud-Africains sont un peu décevants parce que on s'attendait à ce qu'ils fassent monter un peu le niveau et la question c'est de savoir est-ce qu'ils apportent vraiment ce qu'ils devraient apporter, mais en tout cas là on a quand même passé un beau week-end. Bon, on aime bien les matchs un peu plus serrés quand même, mais ça défend un peu plus, mais sincèrement c'est quand même du très très beau rugby.
Toulouse sera donc le seul représentant français dans le dernier carré de la compétition. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2019. Une seule équipe tricolore en demi-finale. Est-ce que c'est un échec pour le rugby français ?
Moi, je suis un peu triste pour Bordeaux, parce que j'aimais bien leur aventure, ce qu'ils ont réussi face aux Saracens, notamment deux fois, leur campagne européenne. Et elle s'achève un peu cruellement dans un match complètement dingue, qui leur laissera des regrets sans doute toute leur carrière aux joueurs et aux entraîneurs. Eux, c'est pareil, ils sont dans un rugby hyper positif. On se rend compte qu'ils ont encore besoin de se renforcer à certains postes, à certains endroits, de muscler leur banc, d'être un peu plus dense devant. Donc, je ne parlerai pas d'échec, parce qu'on est aussi dans une saison post-Coupe du Monde où Bordeaux a été très, très impacté. Qu'il fallait qu'ils se redressent après le tournoi des Six Nations en championnat. Donc ils ont laissé de l'énergie. Ils n'avaient pas Jalibert encore là sur ce match. Ils n'avaient pas Penaud. Et Bordeaux, c'est pas encore le Stade Toulousain. Donc quand tu as deux joueurs comme ça qui te manquent, bah c'est beaucoup. Donc je parlerai pas d'échec, mais un peu de déception pour eux parce que ils ont fait une campagne européenne ultra positive et riche et qui laisse plein d'espoir pour eux plus tard. Donc voilà, et après les autres clubs sont à leur place, et puis il faut aussi se féliciter qu'il y ait un peu de diversité dans le dernier carré, quoi, qu'on y revoit des Anglais. Il y a toujours le Leinster, mais ça fait toujours une équipe anglo-saxonne. C'est un bon brassage, quoi.
La France, je pense, garde quand même une place prépondérante sur cette compétition, etc. Et le dernier champion non français en 2020. Donc je pense pas qu'on peut parler d'échec non plus, d'autant que peut-être que Toulouse va poursuivre la série. Après, je pense aussi quand même que ça montre que le top 14 est toujours plus dense. On le répète un peu à chaque fois, mais c'est vrai. Et les clubs ont de plus en plus de mal, je pense, notamment ceux qui sont pas encore au niveau du Stade Toulousain, à tenir ces deux tableaux-là.
L'échec serait peut-être un peu pour La Rochelle, qui était double tenant du titre, et qui là sort vraiment après une... Alors, ils sont allés gagner en Afrique du Sud, ouais, quand même, hein, donc fallait le faire. Il y avait le voyage aussi, tout ça. Ils prennent une grosse claque au Leinster. Ça montre combien aussi c'est dur de se remobiliser. Je le répète, mais on sort d'une Coupe du Monde. La Rochelle est un club très impacté par les internationaux. Donc, peut-être que si on doit mettre un label échec sur une des campagnes françaises européennes, ce serait un petit peu pour La Rochelle en tant que tenant du titre et qui sort sur une grosse déconvenue. Mais ils ont fait deux années tellement dantesques avant que c'est un peu sévère, quoi. Tout n'est pas blanc et noir, Léa. Voilà.
Et bien justement, on parlait des défaites de Bordeaux-Bègles et de La Rochelle. Selon vous, pour qui la déception est la plus grande entre les deux clubs, entre Bordeaux qui perd d'un point avec une transformation ratée à la fin du match et La Rochelle qui dit adieu à son rêve de tripler, même si là, le parcours paraissait quand même extrêmement compliqué.
Je pense que pour Bordeaux, c'est dur quand même. pour Bordeaux, pour tout ce qu'on a dit sur, sur sa campagne européenne, pour le scénario dingue, pour ce petit point qui manque en quart de finale. Quelques joueurs avec qui ça va... le point qui manque en quart de finale va trotter un moment dans la tête. Je pense que ouais, pour Bordeaux, c'est le plus dur. Il y a une grosse déception à La Rochelle, mais ce sont des joueurs qui sont déjà multititrés, quoi. Donc,
si, je pense que si au début de la saison de Coupe d'Europe, on avait dit que La Rochelle et Bordeaux sortiraient en quart, on se serait dit que la déception serait plus importante pour La Rochelle en tant que tenant du titre. Mais comme dit Renaud, si on s'arrête juste au scénario des matchs, ouais, pour Bordeaux, c'est très très difficile parce qu'ils auraient clairement pu et mérité, d'une certaine façon, d'être dans ce dernier carré.
Ce week-end de quart de finale a aussi été marqué par des scores très lourds. Record de points donc pendant Toulouse-Exeter qui bat le précédent record qui datait de la veille avec UBB Harlequins. Donc les autres résultats, Leinster-La Rochelle 40 à 13 et Northampton Bulls 59 à 22. Comment on peut l'expliquer ? C'est plus à la mode de défendre ?
J'ai croisé un confrère dans le bureau, dans le couloir qui disait oh, c'est nul, c'est pas du rugby. Bon, c'est vrai qu'on aime bien quand ça s'attrape un petit peu plus. Et... Non, mais c'est marrant, c'est des phases, quoi. Tout à coup, il y a des matchs qui basculent dans cette vibe-là, quoi. C'est-à-dire que ça devient tout offensif, que c'est l'attaque qui prend le pas sur la défense. On a tendance à ronchonner quand c'est l'inverse. Pourtant, ça peut donner des matchs extrêmement intenses et spectaculaires. Bon, bah là, ça s'est joué dans l'autre sens. Potentiellement, les demi-finales entre la pression, l'indiscipline, nous, on sera sur des matchs cadenassés. Ouais. Donc, je ne crois pas que ce soit pas la mode de défense. Je ne pense pas qu'il y ait un seul des managers du dernier carré qui oublie de travailler la défense en semaine. Ça s'est fait comme ça. Il faisait beau, les stades étaient pleins, les gens avaient envie de se faire des passes, enfin les joueurs surtout.
Il y a peut-être quand même une petite tendance dans la Coupe d'Europe à être poussé vers un rugby quand même un peu plus offensif. Notamment
par l'arbitrage
Par l'arbitrage international qui a tendance à être un peu plus favorable à l'équipe qui a le ballon. Et également à ce système de bonus offensif en phase de poule avec 4 essais marqués qui donnent le point de bonus offensif, qui incite les équipes à beaucoup jouer au rugby. Alors évidemment, il n'y a plus les points de bonus offensifs en phase finale, mais je pense que les équipes, quand elles sont en Coupe d'Europe, elles se mettent aussi un peu dans un mode attaque plus important qu'en top 14, où l'enjeu, c'est toujours la conquête, la défense en premier. En Coupe d'Europe, les matchs, ils ne se gagnent pas forcément dans le secteur défensif.
Et donc 77 points inscrits par match en moyenne ce week-end. L'an dernier en quart c'était 61. Et si on remonte dans les 10 dernières années de la Coupe d'Europe, on était plus autour des 50. Et puis je voulais aussi faire mention des Clermontois qui sont eux en demi-finale de Challenge Cup. Ils affronteront les Sud-Africains des Sharks à Twickenham le 4 mai. Merci messieurs d'avoir été dans Crunch. Merci à Marie-Amélie Mott pour l'enregistrement. On se retrouve la semaine prochaine. Cette fois on vous parlera du 15 de France féminin et du tournoi Destination. Bonne semaine à tous. Salut.